おかしいおかしい。
J'ai le gonfre congolais avec Kevin Couté. Bonsoir et bon début de semaine à tous. Derniers incidents à l'université de Kinshasa. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire accuse une main noire cherchant, selon lui, à soulever les étudiants et à discréditer le pouvoir. Comment analyser la déclaration du ministre et quel mécanisme mettre en place pour sécuriser les sites universitaires à travers le pays? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission le professeur Léonard Machako Mamba. Il est ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire du gouvernement central. Il est en ligne. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur Kabamba Bogwe, le professeur à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa et président du parti politique de l'opposition Front Patriotique de la plateforme G14, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Et Serge Gonto, il est analyste politique et membre de la société civile. Il est avec moi dans ce studio. Monsieur Gonto, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déjà très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de l'honorable Odiane et Pauline de Kisangani en province orientale. La déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire n'a qu'un seul but, selon lui, celui de se dédouaner. Il y a eu un premier cas de mort d'un étudiant aux environs du campus. Qu'a fait le ministre pour sécuriser les étudiants et mis de G1 droit à l'inutile? Je pense que le renforcement du système de sécurité et installation du système d'alerte ainsi que des caméras de surveillance pourraient réduire ces cas d'insécurité. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. À travers le monde sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Actualité oblige, avant d'aborder notre thème de ce soir, on va faire un petit commentaire en une minute chacun sur la commémoration de la mort de nos deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Monsieur le ministre, commençons par vous. Quel est votre commentaire par rapport à cette commémoration?
Merci beaucoup. Je voudrais dire qu'il est important qu'on saisisse toujours des moments dans la vie pour penser à, notamment à tous ces leaders qui ont sacrifié leur vie parce qu'ils tiennent et ils tenaient au bonheur du peuple congolais. Ils voulaient l'indépendance réelle de ce peuple qui, au lieu de continuer à parler de nombreuses recherches naturelles, devrait plutôt s'organiser pour les exploiter au profit de la population. C'est la pensée de Patrice Emery Lumumba et de M. Laurent Désiré Kabila qui ont été assassinés sauvagement parce que justement ils amenaient le peuple congolais à se prendre en charge 50 ans depuis Patrice Emery Lumumba et 10 ans pour M. Laurent Désiré Kabila. C'est aux Congolais de se sentir interpellés pour que nous puissions continuer leur combat et leur idéal.
Merci, M. le ministre. M. Serge Gonto, votre commentaire aussi par rapport à cette commémoration.
Effectivement, c'est toujours des moments importants pour un peuple de se rappeler de ceux qui ont versé leur sang pour son sort. Seulement, je note quand même que nous ne donnons pas assez d'importance à ces événements. La commémoration n'est pas à leur dimension. Je parlerai plus particulièrement de Patrice Lumumba, qui est devenu une icône africaine et mondiale. Je pense que nous devions faire un peu plus que ça. Ce que nous faisons, c'est assez maigre pour lui. Mais je salue leur courage.
Merci, M. Serge Gonto. Maintenant, notre thème de ce soir, le calme est revenu à l'université de Kinshasa après une journée de tension observée entre les étudiants et les éléments de la police jeudi dernier. Cette situation était consécutive à la mort d'un étudiant retrouvé pendu sur le campus. C'est le deuxième corps sans vie qu'on retrouve dans cette université pour ce mois de janvier. Les dégâts matériels sont importants. Quant au bilan humain, le porte-parole du gouvernement qui intervenait jeudi soir sur les antennes de la télévision nationale, a parlé de deux morts surprenants confirmés jusqu'ici par des sources indépendantes. On écoute le ministre Lambert Mende dans cet extrait recueilli pour nous par Georges Kamoujova.
Le bilan des événements qui se sont déroulés à l'université de Kinshasa se présente de la manière suivante. 14 véhicules ont été incendiés, 2 bus servant au transport de personnes de l'université de Kinshasa incendiés, mise à sac et pillage de la résidence du recteur de l'université, pillage également d'un conteneur dans lequel se trouvaient 500 ordinateurs et accessoires informatiques, dont de la coopération sud-coréenne à l'université de Kinshasa, et dans la tentative de sauvegarder ces biens contre le pillage, 2 personnes blessées par balle parmi les pillards auraient succombé par la suite au cours de leurs soins à l'hôpital. L'incendie également de 2 stations-service, dont une en construction au niveau du lieu dit intendance générale de l'université de Kinshasa et mise à sac au niveau de l'intendance générale d'une pharmacie. La police a dû intervenir et à la suite de l'intervention de la police nationale, le calme est revenu sur le site universitaire.
C'était là le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement central. Monsieur le ministre Mashako Mamba, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Comment se présente la situation aujourd'hui sur le campus de Kinshasa, au campus de Kinshasa?
Merci beaucoup. La situation actuellement est calme, mais il est important de souligner que c'est un campus meurtri où il y a beaucoup de dégâts. La perte déjà d'une personne humaine est une catastrophe, mais en plus aussi, ceux qui ont attaqué le campus avaient l'intention de tuer beaucoup de personnes, mais je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour pouvoir le montrer. Ceci ne nous empêche pas d'avoir la détermination de reprendre les activités normalement, tout en continuant à déployer tout ce qui est nécessaire pour comprendre ce qui est arrivé. Et je voudrais saisir l'opportunité pour, en tenant compte de ce que a dit l'honorable de Tiffany, en fait, vous dire que on chercherait à créer le chaos, ne procéderait pas différemment. Il faut se rappeler qu'en 10 jours, on a eu 3 décès dans cet environnement. Le premier décès, c'est la mort de l'étudiant Mbaye Michel, tué la nuit du 4 au 5 janvier. Ce jeune étudiant du premier doctorat du dentaire de la faculté de médecine s'est déplacé en quittant le home beach au-delà de 23 heures accompagné de 2 jeunes filles et d'un garçon, les 3 étant non étudiants, et il se rendait dans le quartier qu'on appelle Tchad, qui est juste à côté de l'université, donc dans le site même de l'université, mais dans un quartier loti, et c'est là où il va être tué. Dans la nuit du 10 au 11 janvier, donc exactement 5 jours plus tard, des éléments armés vont traverser le campus et arriver à la lisière de résidence de professeurs et du quartier Tchad. Il y a un qui va abattre un des éléments et donc 2 décès en 5 jours. Et enfin, le 3e cas, c'est celui de la nuit du 12 au 13 janvier, où, indiscutablement, la mort de l'étudiant de Mambo Kibanda Fiston, on peut, et c'est ce qui nous permet de montrer qu'il y a quelque chose de plus grave qui se préparait, c'est que on va le retrouver suspendu sur un arbre en face du homme 20. Mais le dauphin habitait le homme 10. Et jusqu'à 23 heures, ils étaient 4 dans la même chambre, ils ont regardé la télévision, les 4 à 23 heures éteignent la télévision et s'endorment, et vers 5 heures quand les 3 condisciples de la chambre se réveillent, ils ne trouvent pas ce fiston de Mambou, et ce sont les bruits de d'une masse à l'extérieur, mais en face de l'homme 20, pas en face de leur homme, qui les alerte en descendant, on découvre que c'est leur fin fiston. Alors, à partir de là, se déclenche quelque chose sur lequel nous allons certainement revenir,
oui,
qui nous montre que rien ne se fait au hasard. Il fallait frapper l'imagination des étudiants, frapper l'imagination de tous ceux qui passent. Vous savez que le campus n'ayant pas de clôture, il est traversé dans tous les sens par tout le monde, étudiant et non étudiant. Et c'est à partir de là que des gens venant de Mbandelemba, de quatre quartiers qui sont incrustés dans le site universitaire, Rita, Tchad, Mandela et Congelos, plus les gens qui venaient de Kimberley, que cette masse va s'organiser pour aller causer les dégâts que nous avons eu à déplorer la journée du 13 janvier.
Alors,
voilà
monsieur
donc
le
pour situer la psychose et cette volonté de frapper l'imaginaire et en fait maintenant masquer tout ce qui pouvait survenir parce que certainement j'attendais à ce qu'il y ait une répression brutale avec quelque chose qui nous fait penser à l'opération de Kitimboka. Et je souhaite que, sérieusement, quand les gens vont en parler, qu'ils en parlent avec beaucoup de mesure, parce que ce que nous avons vu, les éléments que nous avons montrent qu'il y a une volonté manifeste de tuer les pauvres étudiants qui
n'ont pas
fait de problème à qui que ce soit.
On va y revenir tout au long de cette émission, justement avant de parler de cette main noire qui, selon vous, est derrière ces incidents. Les recteurs demandent aux étudiants de reprendre les cours de maître. Toutes les conditions sont réunies pour la reprise des cours.
Nous avons mis en place un dispositif sécuritaire. D'abord, au sein même du site, parce que vous savez, l'université a des autorités, il y a une garde universitaire, et nous avons aussi la coordination des étudiants, et donc nous avons pris des dispositions pour en travaillant étroitement, l'on puisse s'assurer que les activités puissent reprendre normalement, parce que nous avons sillonné le site. Et en dehors de dégâts, nous pensons que tout le monde est déterminé justement à ne pas donner la prise à tous ceux qui veulent aujourd'hui instaurer un climat de terreur pour finalement montrer qu'il y a un problème qui empêcherait l'université de fonctionner normalement.
Merci Monsieur le Ministre. Nous recevons dans ce studio le professeur Kabamba Mouhou. Il est professeur à l'UNIKIL. Professeur, vous, comment vous analysez cette situation de l'Université de Kinshasa?
Bon, la situation que nous venons de vivre à l'université de Kinshasa ressemble fort à ce qui s'est passé dans le temps, dans notre site. Comment expliquer qu'en l'espace d'une semaine de 10 jours, il y a au moins 3 décès, 3 morts, ça dit qu'on voudrait amener une insécurité au niveau de ce site ou qu'il se passe quelque chose en dehors de ça. Nous avons déjà vécu cette situation dans le temps lorsqu'il y a eu des étudiants. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, on a dû déloger les étudiants au niveau de l'université. Et je crois que peut-être c'est ce qu'on cherche, cette concentration des étudiants pour qu'on le déloge. En fait, lorsque vous regardez très bien, moi je prends le cas seulement du premier décès. Le premier décès, on peut peut-être dire que c'est un cas de hasard. Mais il y a eu un mort. 4 personnes en train de vaguer librement. Et puis, 2 personnes qui étaient à la rue, tuent. Maintenant, pour le cas, le tout dernier cas, on trouve l'étudiant pendu. Et lorsque vous regardez cet étudiant pendu, il n'a pas de traits de quelqu'un qui est pendu. C'est quelqu'un qu'on est venu déposer, qu'on a tué ailleurs, et on est venu l'accrocher à l'arbre. Parce qu'on l'a visité. Tous les signes de quelqu'un qui est pendu ne sont pas là. Voilà un peu, c'est un peu donner un peu la terreur dans le milieu universitaire. À ce moment-là, vous comprendrez qu'est-ce qui va se passer par après.
Alors, professeur Kabamba, vous pensez comme le ministre qu'il y a une main noire derrière tout ça?
On ne peut pas dire le contraire, il faut analyser les choses. Parce que des cas comme ça sont déjà arrivés au niveau de l'UNIKIL. On a dû fermer l'UNIKIL à une époque. Est-ce que c'est ça qu'on cherche pour qu'on ferme? Mais je crois que la décision du recteur de pousser les étudiants à reprendre le cours et les enseignants à reprendre le cours, c'est une bonne décision. Et à ce moment-là, il faudrait que le gouvernement, les parents, les enseignants encadrent bien les étudiants.
Est-ce que vous pensez que les étudiants vont revenir en grand nombre parce que nous apprenons qu'une grande partie a quitté le site universitaire?
Oui, c'est ça qu'on cherchait en fait, cette panique-là. Maintenant, lorsque vous passez au niveau de l'université, les étudiants rentrent déjà. Mais la psychose est là. On constate qu'à partir du 29, il n'y a plus personne sur la route. Mais petit à petit, les gens vont s'habituer. Si l'insécurité est calme.
Merci, professeur Kabamba Mouéou. Monsieur Serge Gontour, vous êtes analyste politique et membre de la société civile. En tant qu'analyste, comment vous analysez cette situation?
Et tout d'abord, je commencerai par déplorer quelque chose. Je déplore l'attitude du ministre Lambert Mende. En écoutant sa déclaration, la première chose qu'il fait, c'est de nous compter le nombre de véhicules brûlés, des ordinateurs volés, des dégâts matériels, et c'est seulement à la fin qu'il nous dira qu'il y a eu des morts. Donc, dans le chef du ministre Lambert Mende, ce qui compte d'abord, c'est le matériel. Et à une question qui lui est posée sur une situation, il se présente tout de suite comme un défenseur, un avocat des policiers. C'est comme quoi qui s'excuse s'accuse. Il a apprécié par contre l'attitude du ministre Machako, qui a commencé par signaler qu'un mort, même si ce n'est qu'un mort, c'est quand même un mort de trop. Ça c'était pour commencer. Concernant le fait lui-même, on parle de mémoire. Mais je ne sais pas, mais moi je demande au ministre de l'enseignement ou au gouvernement. Je ne sais pas ce qu'il pense en parlant d'une mémoire. Parce que la mémoire, ça peut être, quand le ministre parle de mémoire, il soupçonne qu'il y a des gens qui ont monté un complot. Mais donc c'est qu'il donne aussi aux autres de le soupçonner aussi. Parce qu'il y a une rumeur qui circule, qui prétend que c'est le pouvoir qui aurait organisé. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Eh bien, nous sommes dans le même jeu, le pouvoir accuse une mémoire et d'autres accusent le pouvoir. Ce n'est pas là le rôle du gouvernement ni du ministre. Ce qu'il doit faire, c'est de diligenter une enquête sérieuse qui nous amène des conclusions, qu'il sanctionne et qu'il sécurise le site. C'est ça son travail. Mais de nous dire tout ce qu'il raconte là, ça ressemble, excusez-moi de le dire, pour moi c'est comme une fuite en avant. Vous vous souviendrez, vous observerez que partout où il y a des mécontentements, où il y a un relâchement dans la sécurité, le piège ne manque jamais. Dernièrement, nous avons vu en Tunisie une opération, une révolution, de jasmin comme on l'appelle, et en marge de cette révolte, le piège est poursuivi. Ça, c'est inévitable. Et donc, il ne faut pas tout de suite croire qu'il y a un coup monté contre je ne sais qui. Nous demandons, nous devons retourner les choses à leur place. Le gouvernement doit cesser de faire semblant de se plaindre, mais il est là non pas pour nous poser des questions, mais pour nous apporter des solutions. Vous vous souviendrez que par le passé, nous avons vécu des phénomènes katakata qui n'ont pas été bien élucidés, mais on se souvient que c'était à un moment de tension politique. Vous vous souviendrez que nous avons eu la fameuse époque des hiboux. Et aujourd'hui, nous savons qui organisait ces choses. Maintenant, nous sommes dans une période électorale très tendue. Comment pouvez-vous empêcher les gens de se poser des questions sur l'identité de la main noire? Voilà.
Merci, M. Serge Gontour. Monsieur le ministre, revenons à votre main noire. Alors, dites-nous, éclairez-nous un peu sur cette main noire. Quels éléments, quelles preuves avez-vous pour dire qu'il y a une main noire derrière ces incidents?
Voilà, merci beaucoup. Je voudrais remercier M. Serge pour son intervention et lui donner probablement des éléments d'analyse qui peuvent lui permettre de se faire une religion. Lorsque quelque chose se produit, la première question que l'on doit se poser est quelle pourrait être la cause, quelle pourrait être la motivation. Alors, il peut se renseigner, je pense, qu'il n'y a pas un conflit qui aurait des entre étudiants pour aboutir à ce qu'il y ait mort d'homme avec tout ce qui a suivi. Il peut aussi vérifier qu'il n'y a pas de conflit entre les étudiants et les autorités académiques. Il peut aussi vérifier qu'il n'y a pas de conflit entre les étudiants et les voisins qui sont autour de l'université. Donc, à partir du moment où nous n'avons pas une motivation interne, il est important maintenant de réfléchir sur deux aspects que je vais porter à sa connaissance. premièrement la brutalité de la survenue et la façon de procéder. Serge et les auditeurs qui nous suivent, ils peuvent tenir compte de ces éléments. Il y a envahissement du site de l'université. Je vous ai cité d'où venaient toutes ces personnes-là. Ils s'attaquent directement au poste de police en cassant les barrières, le poste de police au niveau de l'intendance et le poste d'entrée, ce qu'on appelle le trafic, donc l'entrée principale, à l'autre bout. Et ce qui est frappant, c'est quoi? C'est que les groupes qui viennent, qui envahissent le campus, ont déjà des calicots. Lui qui est de la société civile, j'ai eu moi-même dans mes fonctions à faire élaborer des calicots. Un calicot, vous ne l'élaborez pas en 10 minutes. Il y avait des calicots avec des messages politiques. C'est visible, il y a des éléments. Deuxième élément qui doit nous faire réfléchir. Il y a des cocktails Molotov dont on peut retrouver une série de bouteilles de coca, que ce soit là on a en fait brûlé les postes de garde, que ce soit les bus et les véhicules, vous avez des traces pour tous ceux qui ont participé à des mouvements des étudiants à l'époque, au moment où les gens utilisaient ce type d'armement, on a des traces. Troisième élément, lorsque on se promène avec des bidons d'essence, s'il vous plaît, pour arroser tout le pourtour de la maison du recteur, et qu'on brûle cette maison, l'époux du recteur et ses enfants étant à l'intérieur. Mais c'est la main de Dieu qui a fait que nous n'avons pas perdu l'épouse et les enfants du recteur. Quatrième élément, un groupe quitte l'Unitum, pas des étudiants. Ils traversent Mbanzalenda, Livoulou, et on les stoppe au niveau de la station de Salongo pour rejoindre un groupe qui les attendait au quartier Kizindi. Alors je voudrais demander à Serge comment il va expliquer ça. Et cinquièmement, il y a un groupe qui quitte toujours ce groupe, qui contourne le Rompengaba pour ne pas être intercepté, et finalement qui va se manifester au niveau de l'avenue de l'université, au niveau de Eyolo, en marche vers le palais du peuple. Ce sont des faits, et vous savez qu'il y avait des éléments de presse nationale et internationale qui, finalement, à la recherche de l'information, étaient un droit, qui ont pu accompagner tous ces groupes-là. Et donc, je voudrais que les Congolais ne prennent pas les choses à la légère. Il n'y a aucun parent qui envoie son enfant pour être tué de la façon dont les gens jouaient. Et je voudrais terminer ce point en disant ceci. Lorsque on découvre le corps de fiston, vous savez, quand on meurt par pendaison, dans le cours de médecine légale, je suis médecin, qu'on a enseigné, que nous enseignons, les signes, vous allez trouver des signes de strangulation ou d'étouffement au niveau du cou, la bouche, parce que le cerveau enregistre ce déficit brutal d'oxygène. Donc, effectivement, le corps, la bouche s'ouvre, la langue sort et les yeux sont ouverts. Mais cet enfant, on le retrouve avec la bouche fermée et les yeux fermés. Merci. Mais ce sont des signes qui attestent scientifiquement qu'on a tué ce pauvre garçon ailleurs et qu'on est venu faire l'assimilation. Alors, dites-moi, comment on peut expliquer que quelqu'un qui veut apparaître comme brutal, spontané, il y a tous ces éléments qui montrent que rien ne s'est fait sans préparation.
Merci, monsieur le ministre. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de vous faire écouter le son des fêtes du doigt que nous avons joint à l'UNIKIN, qui nous donne ici les causes de cette insécurité sur le site universitaire de Kinshasa. Il parle entre autres de la politisation du site universitaire et des infiltrations sur le site. On l'écoute au micro de Radio Capitale.
Il faut souligner que parmi les causes qui créent l'insécurité à l'université de Kinshasa, il y a l'infiltration de nos étudiants. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas étudiants ou qui ne le sont même plus, qui habitent sur le site avec les étudiants et ça crée beaucoup de confusion. On ne sait pas concrètement ce que ces gens font, mais en réalité, ils vivent aussi sur le site et ils se camouflent en étudiants. Ça, c'est la première de causes. La deuxième de causes, c'est la politisation du site universitaire. Actuellement, presque tous les étudiants ont une couleur politique. Et dès lors qu'on vous constate avec une couleur politique autre que celle qui est bien aimée par une catégorie, on peut même vous poursuivre. Il y a des véritables activistes et militants des partis politiques dans les sites universitaires. Tout ça, ça crée des confusions et c'est la source même de l'insécurité. À part cela, il y a la garde universitaire qui n'est plus vraiment en bonne qualité. La garde devient très faible et on ne recrute plus depuis un certain moment cette garde universitaire. L'environnement appuie davantage cette insécurité qui se crée déjà à partir des individus. L'université n'est pas assainie, la brousse pousse partout et il n'y a même pas d'éclairage public.
Professeur Kabamba, votre réaction par rapport à ce que nous venons de suivre?
Cet étudiant a parfaitement raison. Hein. Je vis là-bas. Ce qu'il dit concernant l'infiltration de beaucoup de, je peux dire, de personnes non étudiantes qui vivent là-bas. Et ces personnes non identifiées. D'ailleurs, lorsqu'on a fait dernièrement le contrôle, on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas étudiants.
Et qu'est-ce que vous avez fait parce qu'on a fait ce constat-là? Qu'est-ce qui a été fait?
Bon, maintenant, je crois que le ministre qui m'écoute a pris des décisions pour enlever tout ce monde-là. C'est-à-dire que lui, il est là, il les a trouvés. On nous dit que ces gens-là vivent là-bas depuis 4 ans, 5 ans. Il y a des étudiants qui ont terminé depuis 10 ans, qui se retrouvent là-bas dans les rues. Vous voyez, cette situation-là, avec des gens qui ne sont pas étudiants, et on ne sait pas contrôler le site, et il faudrait faire en sorte qu'on élimine tous ces gens-là, ça peut provoquer aussi donner de l'insécurité. Et les gens malveillants, en profitent, s'infiltrent au niveau du site, et provoquent ce que nous venons de connaître. La politisation, c'est vrai. Le phénomène Katakata, le phénomène ceci, ça, c'est vrai. C'est vrai aussi. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de l'étudiant.
Et cela
prouve vraiment bien que tout ce qui se passe là-bas vient de l'extérieur. Le milieu universitaire, normalement, est calme et sécurisé. Maintenant, la garde universitaire, son rôle est quoi? C'est garder le site. Ils ne sont pas armés, donc ils ne sont pas prévus pour avoir des armes. Normalement, le site universitaire devait être calme. Mais ces gardes là-bas, c'est pour essayer de donner un peu la sécurité au niveau du site, les passants qui passent. Maintenant, je crois que vous avez entendu son excellence, monsieur le ministre. Il n'y a plus de contour au niveau de l'université. Les gens passent à travers cette université, ce site-là. On ne connaît pas qui passe par là. Tout ça, ça peut provoquer l'insécurité. Et ça donne l'impression que les gens qui se créent, qui se côtoient à l'extérieur de l'université peuvent amener l'insécurité dans l'université. Et je suis tout à fait d'accord.
Et par rapport aux éléments que le ministre a avancés tout à l'heure pour prouver qu'il y a une main noire derrière ces incidents, vous êtes d'accord avec lui?
Lorsqu'on fait l'analyse de ce qui s'est passé, le dernier cas concernant l'incendie de la maison du recteur. Moi, j'étais là. Les gens se sont amenés avec des bidons d'essence. Donc, c'était des coups déjà préparés. Et nous apprenons que le premier groupe qui a visité l'étudiant qui était suspendu n'ont rien fait. C'était des étudiants de médecine qui ont vu, qui ont regardé le signe. Maintenant, le deuxième groupe qui était arrivé. Et d'ailleurs, lorsque j'étais chez le recteur, la plupart des gens qui s'emmenaient, il y avait des gens de Bangalemba, les badauds qui s'emmenaient. Parce que nous avons fait en sorte que nous prenions nos enfants qui se trouvent là, qui détectent s'il y avait des étudiants. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher, ce sont leurs camarades. Ainsi de suite. On a constaté qu'il y avait des visages des gens qui n'étaient pas de l'université. Et on en a attrapé d'ailleurs. C'est pour vous dire que, bon, l'insécurité venait de passer par là. Et c'est que M. le ministre a donné comme élément. Les gens qui se ramènent avec des calicots, ça veut dire que c'était déjà des coups préparés. On ne peut pas, ce n'était pas spontané. On a trouvé le corps le matin. Pour amener les calicots, il faut déjà préparer quelque chose. Alors, ils s'amènent avec des calicots, ainsi de suite, avec des bidons d'essence, les cocktails Molotov, c'est certain, parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait sur le réacteur. Ils ont jeté dans la maison des bouteilles d'essence. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, la marche, bon, ça, on peut mettre ça à côté, la marche peut se créer. Mais si c'est organisé, ça peut se créer également par groupe. Donc un commando qui est à l'extérieur, qui se donne comme mission de prendre plusieurs chemins. Là aussi, ça peut arriver. Mais en attendant, moi je me rappelle ce qui s'est passé dans le temps, de notre temps de son étudiant, pour arriver au niveau du monument de Lumumba, on avait pris plusieurs chemins. Hein, ça c'est quelque chose qui peut se préparer également.
Merci, professeur. Monsieur Serge Gauthier, est-ce que vous êtes convaincu par les éléments que le ministre a avancé?
Je constate qu'il y a une inversion de rôle. C'est monsieur le ministre qui devait répondre aux questions, mais je me rends compte qu'il me charge, moi, de faire son travail.
Non, il a donné des éléments pour prouver qu'il y a une main noire derrière ces incidents. Est-ce que vous êtes convaincu?
Monsieur le ministre est un scientifique. Et je crois qu'en tant que scientifique, nous devons savoir faire la critique de ce qui nous est proposé, parce qu'on peut nous pourvoyer exprès. Je peux même dire qu'en voulant trop bien faire, on peut même rater son objectif. Je constate une grande quantité de preuves, entre guillemets. Mais comment ne pas penser à certains préservatifs, certains paquets de préservatifs que l'on a trouvés de manière très opportune à côté du corps de ce Floribert Chebeya? Il y a des gens de la police qui ont essayé de nous convaincre que c'était une affaire sentimentale qui s'est terminée par une crise cardiaque. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes à un autre procès où on commence à entendre un autre son de cloche. Donc, ne croyez quand même pas que moi, je serais suffisamment stupide pour ignorer qu'on peut monter des coups soi-même pour accuser les gens. J'ai un ami qui a été à l'époque conseiller à la présidence à l'époque de Mobutu. Il m'a raconté comment il fabriquait certains opposants. Il me dit, mais tu sais, ce qu'on faisait à l'époque, on va chez un tel, on fait semblant d'attaquer, on essaie de l'agresser, on casse une vitre, on dépose quelques petits bouts de papier à sa porte, et le lendemain, nous envoyons la presse qui raconte partout que tel a été attaqué la nuit par les gens du pouvoir, et voilà, il est fabriqué, il est devenu opposant. Donc, il ne faut pas croire que ces choses ont disparu. Les manières politiques restent les mêmes. Monsieur le ministre, on me demande de répondre à ces questions. Je dis non, ce n'est pas à moi de répondre à ces questions. Moi, en tant que citoyen, je dois porter les préoccupations de la société. Souvenez-vous que, en France, par exemple, la sécurité a été un thème de campagne. Tout un thème de campagne, rien que la sécurité. Si aujourd'hui, on peut entrer et sortir de l'université comme du fil dans du beurre, et s'il peut avoir 3 décès en 10 jours sans que le gouvernement soit en mesure de nous donner même un début de solution, eh bien, si aujourd'hui le ministre ou le gouvernement me demande à moi de tirer des conclusions, j'en dis qu'il est tout simplement en train de nous montrer qu'il est incapable de nous assurer notre sécurité, et ça, c'est très grave.
Alors, le ministre Macha Komamba, dans son point de presse qu'il a tenu vendredi dernier, si je ne me trompe pas, pointe du doigt les politiciens. Il dit que l'attitude des politiciens n'est pas innocente.
Oui, c'est pourquoi, moi, excusez-moi, pour le Bafolele, moi, cette précipitation à accuser déjà les politiciens, c'est-à-dire l'opposition, parce que je suppose qu'un ministre du pouvoir ne va pas accuser le pouvoir. C'est cette précipitation à accuser l'opposition qui me paraît suspecte. C'est comme si c'était un coup monté par le pouvoir lui-même, alors, pour accuser l'opposition en cette période trouble où il y a de grandes questions sur les élections. Voilà ce que je peux en dire. Je n'affirme rien, mais je raisonne comme raisonne tout le monde dans la rue.
Merci, M. Gonto. M. le ministre, en parlant de main noire, vous visez qui?
Non, mais je voudrais une fois de plus remercier Serge, mais lui dire clairement que je n'ai pas demandé de répondre. Je pense que les intellectuels, nous devons avoir un raisonnement logique jusqu'au bout. Et je pense que je mesure bien mes mots. j'ai dit qu'on doit se poser la question, quelle peut être la motivation à partir du moment où actuellement, dans l'enseignement supérieur, notamment à l'université de Kinshasa, il n'y a pas un motif qui pouvait amener, suite au conflit intérieur, qu'on arrive à une catastrophe comme celle que l'on a enregistrée. Et c'est pour cela qu'il faut alors se poser la question, mais à qui profite le crime? Je voudrais attirer son attention. À moins que, comme on le dit dans Ésaïe, vous avez des yeux, vous ne voulez pas voir. Mais si on constate, et ça c'est le, malheureusement, on est en train de dire qu'on découvre tel élément, c'est au pouvoir, mais aussi à la société. À chacun d'entre nous se poser la question, mais comment expliquer que pour des enfants qui n'ont provoqué personne, qui n'ont pas déclenché une bagarre d'entre eux, qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui veulent en fait empêcher une année académique, surtout vous savez tout le combat qu'on a mené pour amener l'UNIKIN au retour au calendrier normal. Alors, la question, je serais imprudent si je vous disais, je pointe du doigt, c'est tel ou tel, mais je constate.
Et pourquoi vous avez des éléments de preuve, que vous savez qui sont derrière tout ça, monsieur le ministre?
Oui.
Puisque vous avez vous disposez des éléments de preuve, c'est que vous savez, vous connaissez les personnes qui sont derrière tout ça?
Non, je pense que là, c'est trop tôt, parce que nous avons des éléments du terrain. Il y a des personnes, étudiants ou non étudiants, qui ont été appréhendés. Et vous savez qu'il y a même des étudiants qui ne sont pas de l'UNIKIN, mais qu'on a retrouvé, notamment une des jeunes filles qui était en train, qui conduisait l'équipe qui est venue de la résidence du directeur. Donc, il y a des éléments sur lesquels ceux qui ont en charge la sécurité doivent approfondir l'analyse. Et donc, je pense que c'est responsable.
Il y a une enquête qui est en cours, monsieur le ministre.
S'il vous plaît, oui,
c'est
en cours, parce que nous avons même des éléments qui nous permettent d'explorer des pistes.
Alors, par rapport à cette situation, quel mécanisme mettre en place pour sécuriser les sites universitaires à travers le pays?
D'abord, premièrement, c'est d'en appeler à l'opinion nationale. Et ça, il faut qu'on évite justement d'en faire un problème d'un groupe ou d'un autre. Un enfant qui meurt, je vois à Fiston, il vient de Bandung. Kazembaï Michel qui nous a quitté vient de Kassai. Donc c'est un problème qui nous concerne nous tous. La mort d'un étudiant, pour moi, c'est une catastrophe. C'est un investissement perdu pour la famille. C'est un avenir brisé. Et donc, il faut d'abord que chacun d'entre nous ne reste pas indifférent en se disant « ça ne me regarde pas ». Deuxièmement, nous avons sensibilisé et les autorités académiques, avec le drame qu'on a connu avec M. Le qui a tout perdu. Mais les étudiants, je suis monté, j'ai parlé aux étudiants, il faut qu'on ouvre l'œil le bon. Et l'analyse que l'étudiant que vous aviez interviewé, qui a si bien résumé la situation, et nous avons commencé au niveau du gouvernement à voir comment les problèmes que nous pouvons résoudre urgemment, que nous puissions les résoudre, mais en amenant la communauté universitaire à s'approprier les stratégies. Vous savez, quand vous nous disiez « organisez-vous, prenez-vous en charge », dans tous les pays, vous avez vu ce qui est en train de se passer, il faut qu'absolument aussi ceux qui vivent sur le campus ne soient pas indifférents aux voisins, à l'insalubrité, les hautes herbes, il faut que chacun se sente concerné sur la sécurité individuelle et collective. Et je pense au travail, nous avons commencé à le faire. Je dois remercier la coordination des étudiants qui nous a beaucoup aidé en étant vigilante. Si la coordination des étudiants et la garde universitaire qui est très fatiguée, la moyenne d'âge c'est plus de 50 ans. Et je pense que malgré la qu'on est accablé, je dois reconnaître que ce sont des hommes et des femmes qui ont abattu un travail important.
Merci, monsieur le ministre. Professeur, quelles sont vos propositions pour assurer la sécurité des sites universitaires? Nous tournons vers la fin de notre mission. Résumez-vous.
Bon, ce n'est pas la première fois que nous avons connu un peu de sécurité. Il y a déjà 6 ans, 7 ans, hein, qu'on a connu ces situations. il faudrait que les gens qui vivent là-bas s'organisent. Je vais vous donner le cas qui est arrivé à notre site au niveau de plateau des professeurs.
Donnez des propositions concrètes, professeurs, parce qu'on a passé du temps.
On a passé du temps, ça veut dire que les gens qui se trouvent là-bas doivent se déterminer seuls, se prendre en charge.
C'est-à-dire quoi, se prendre en charge?
Bon, je crois que la sensibilisation des étudiants, des enseignants par rapport aux étudiants, et la société même qui vit là-bas. Et après, nous pouvons demander au gouvernement de nous aider. D'abord, nous-mêmes, voir quelle est la situation qui se passe à notre niveau. La mairie de notre site doit fonctionner et organiser la police universitaire. Et à ce moment-là, une fois que chacun connaît ce qui se passe sur les voisins, on peut voir ce qui se passe jour et nuit. S'organiser tout simplement.
Merci, professeur Kabamba. Monsieur Serge Gonto, vos propositions pour sécuriser les sites universitaires.
Et je vais dire d'abord ma déception, ensuite ma proposition, si je peux en donner une. Ma déception, c'est que vous avez demandé au ministre du gouvernement ses propositions et il n'a entendu nulle part où il a dit ce que le gouvernement doit faire. Donc, le problème de sécurité, c'est le problème de la mairie, c'est le problème des étudiants, mais nulle part, il n'a parlé de lui-même. C'est très grave, ça. Ça dénote, ça donne vraiment nous interpeller que, excusez-moi de le dire, ça peut refléter que notre gouvernement est assez irresponsable. C'est-à-dire, il ne semble pas que c'est lui d'abord qui doit faire quelque chose, mais ce sont les étudiants. Alors, ma proposition, c'est difficile à dire, c'est vraiment difficile. Je dirais, je n'ai pas la police. Je crois qu'il devait organiser la police, il devait prendre l'autorité de mesures pour évacuer les étudiants, les non désirables sur le lieu. C'est le travail du gouvernement. Alors, si le gouvernement n'est pas en mesure de faire ce qui est dans ses prérogatives, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit démissionner.
Merci, M. Goncho. Vous avez été très nombreux auditeurs des radios Platia à nous envoyer vos réactions. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de les lire. Nous allons dire merci à Jonathan de Bignonor, Sivu, Mida Kautako depuis Bruxelles en Belgique, Sikiri du Sud Kivu, Alil du Sud Kivu, Jean-Pierre de Kisangani en province orientale, Jules de Matadio, Bakongo, Congo, Kababa de Mbujima au Kassai oriental. Monsieur le ministre, nous tendons vers la fin de notre mission. Votre conclusion en 45 secondes.
Merci beaucoup. Je voudrais peut-être décevoir mon ami. Nous avons commencé déjà à travailler sur l'accès. Et donc là, il peut vérifier les travaux. Nous avons commencé avec le VD. Nous venons de terminer le plan avec la SNER pour l'éclairage de l'ensemble du site. Et nous venons de terminer l'enquête sur la présence de non-ayants droit sur le site, c'est plus occupé illégalement le terrain de l'université. Il y a des mesures qui sont en train de venir. Nous sommes dans un gouvernement très responsable et ce n'est pas, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un peut-être anticipe sur le travail que l'on fait. On s'est toujours assumé et on assumera jusqu'au bout.
Merci, Monsieur le ministre. Professeur Kabamba, conclusion en 30 secondes.
Oui, je crois que les mesures que nous pouvons prendre, c'est pour notre bien, nous qui vivons là-bas. C'est-à-dire qu'éliminer tout ce qu'il y a comme insécurité à notre niveau. Et toutes les personnes non étudiantes doivent disparaître au niveau de l'unité. Et organiser surtout la police universitaire. Et ça, je laisse la tâche aux autorités académiques qui, je crois que lundi, commencent déjà le travail. Et le fait d'amener les étudiants également pour venir étudier, c'est une bonne chose.
Merci, professeur Kabamba. Monsieur Gonto, conclusion en 30 secondes.
Je commencerai par réitérer mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs. Deuxièmement, j'attirerai l'attention du gouvernement et de la population que les actes d'insécurité n'ont pas lieu seulement à l'université. Là, on en a beaucoup parlé parce que la télévision est passée par là et qu'il y a eu ce mouvement des étudiants, mais c'est chaque jour qu'on tue à gauche et à droite. Est-ce que nous allons continuer à demander aux gens, là, partout où ils sont, organisez-vous? Si le gouvernement a un véritable atelier, un véritable chantier qu'il doit mettre en œuvre.
Merci, M. Gonto, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu, Alain Hong, Samuel Tata, sous la supervision de Pelle et Kipela Mondo, qui vous ont préparé et réalisé cette émission. Badjania m'a été à la technique. Kelly Koutier vous a présenté cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radio.net. Voici le programme sur la fréquence de la paix.